Valeur H203 et 209. Initiation à l'histoire du Moyen-Âge. Dixième cassette, deuxième phase présentée par Monsieur Neveu.
Le pouvoir royal et les assemblées dans les royaumes occidentaux, c'est-à-dire les royaumes de France, d'Angleterre, de Castille, de Navarre, de Portugal, d'Aragon, de Naples et de Sicile. D'importantes transformations ont lieu dans les royaumes concernés au début du XIVe siècle, sur le plan de l'organisation des pouvoirs. Parmi ces transformations, notons l'apparition d'assemblées. C'est un phénomène général. Cependant, les modalités sont différentes selon les cas, les fonctions sont variées, et ces assemblées tiennent des places diverses dans le fonctionnement des institutions. Pourquoi donc ces assemblées se révèlent-elles nécessaires? Le roi ne peut plus gouverner seul, l'administration est de plus en plus complexe, c'est le développement de l'écrit, et le roi attend un meilleur encadrement de la population. Le roi ne peut pas juger seul, c'est l'un des rôles dévolus à ses assemblées, celui de la justice. Mais là encore, les situations sont très variées. Le roi a besoin d'argent, en particulier pour mener la guerre, car on fait appel de plus en plus à des troupes soldées et à des spécialistes comme les arbalétriers. De plus, le coût des armements est de plus en plus grand, que ce soit les armements anciens, les fortifications, ou les armements nouveaux. C'est bientôt l'artillerie qui va apparaître. Or, la plupart du temps, les populations renâclent à payer l'impôt, sans donner d'une façon ou de l'autre leur consentement. Les assemblées sont donc une réponse à tous ces besoins nouveaux. Voici donc mon plan. Première partie, le démembrement de la curia regis, de la cour royale. Deuxièmement, les assemblées au service du roi. Troisièmement, le contre-pouvoir des assemblées. Première partie donc, le démembrement de la curia regis. Et d'abord, les origines. Le roi médiéval, et surtout le roi féodal, ne gouverne pas seul. Ce n'est pas, sauf exception, un roi absolu. Traditionnellement, le roi est entouré de sa cour, en latin curia regis, qui est formée au départ par les membres les plus éminents de l'aristocratie féodale. La plupart du temps, les assemblées sont issues d'un démembrement de la curia regis. Le roi est assisté de ses vassaux, de ses grands officiers. C'est la naissance du conseil. Apparaîtrait également l'autel pour les fonctions domestiques. Et du conseil, peu à peu, vont se distinguer les organismes judiciaires et les organismes financiers. Voyons donc quels sont les différents modèles, et d'abord le cas français. En France, on peut distinguer, à partir de la cour royale, de la curia regis, la curia in concilio, autrement dit le conseil du roi. La composition en est variable. D'abord les princes, ensuite les grands officiers. Signalons quelques-uns d'entre eux. Généralement, l'office de sénéchal est vacant. En revanche, le chancelier, choisi à vie, est remplacé depuis Blanche de Castille par le garde du sceau révocable. Signalons le chambrier, le bouteiller de France, le grand maître de France qui s'occupe de la maison du roi et le connétable, assisté de ses deux maréchaux. La plupart de ces offices sont issus de la cour carolingienne, mais la plupart d'entre eux sont désormais des titres vides de sens. Cependant, ils confèrent à ceux qui les détiennent un prestige et une prééminence enviée. De plus en plus sont introduits au conseil des spécialistes, et notamment les fameux légistes de Philippe le Bel. Deuxième, démembrement du Conseil. La curia in parlamento, autrement dit, le Parlement. Il tient des assises régulières depuis Saint-Louis. Et la série des olimes, autrement dit, des registres du Parlement, commence en 1254. Le Parlement sera organisé par la Grande Ordonnance de 1345. Mais il n'a pas de fonction financière. Ses fonctions sont dévolues à la Curia in Compotis, autrement dit la Chambre des Comptes. Elle est apparue au XIIIe siècle comme simple session financière de la Cour. Son rôle s'est développé à l'issue de l'extension considérable du domaine. Elle est organisée en 1303, puis en 1320, par l'ordonnance de Vivien en Brie sous Philippe V. Elle a alors 4 maîtres clercs et 3 maîtres laïcs. Sa compétence, ce sont les comptes et l'administration, aussi bien celle du domaine que celle des villes. Signalons ensuite l'existence du trésor. Au XIIIe siècle, le trésor est confié à l'ordre du Temple. Mais, sous Philippe le Bel, les choses vont changer. Dès 1291, les Templiers ne sont plus seuls. Ils doivent compter avec les célèbres Biches et Mouches, autrement dit les frères Albizzo et Mucciato Guidi dei Francesi. Deux hommes d'affaires florentins, originaires de San Gimignano, qui sont venus en France sous Philippe III le Hardi. Ce sont des financiers. Ils connaissent très bien tous les ressorts de la finance. De plus, ils ont une trésorerie riche de créances et sont capables de prêter au roi. Ils sont souvent au conseil et Philippe le Bel n'hésite pas à les envoyer en ambassade, par exemple en Allemagne en 1299 ou en Italie en 1300. En 1295, finalement, Philippe le Bel retire le trésor du Temple et le met au Louvre. Il nomme alors 2 trésoriers. Cette administration sera réorganisée sous Philippe V avec 3 trésoriers et plusieurs clercs, dont le changeur. Ces gens encaissent les recettes, paient les dépenses, tiennent la comptabilité. Ils tiennent notamment un livre journal. Et chaque année, ils établissent un livre de comptes qui est soumis à la Chambre des comptes. Ces institutions relèvent directement du roi. Le Parlement, notamment, n'a pas en France de fonction financière. Il ne représente en rien la population du royaume. Or, il est nécessaire d'obtenir le consentement de cette population pour les impôts. Le roi réunit donc des assemblées locales, qu'on appelle parfois états provinciaux. Ces états sont généralisés sous Philippe le Bel. Parfois se réunissent l'ensemble des états, les états de Languedoc pour le nord, les états de Languedoc pour le midi. On parle parfois d'états généraux, mais cette expression est assez discutable pour l'époque. Les particularités du système français sont donc que le Parlement est une assemblée judiciaire et que cette assemblée judiciaire est distincte des assemblées financières qui sont occasionnel. Le modèle français est directement reproduit dans les principautés souveraines, duché de Bretagne, avec le Parlement de Rennes, duché de Bourgogne, avec les grands jours, appelés Parlement au XIVe siècle, grands jours qui siègent à Beaune, puis, à partir de 1431, alternativement, un an sur deux à Beaune, dans le royaume, et à Dole, c'est-à-dire dans l'Empire, pour le comté de Bourgogne. Voyons maintenant le cas anglais. À l'origine, Il s'agit de l'assemblée des barons, auxquels se joignent les prélats. Cette assemblée s'est traduite, par exemple, par la rédaction de la Grande Charte de 1215. C'est un élargissement du Conseil, commune concilium en latin, le commun Conseil. La distinction claire entre Conseil et Parlement est faite en 1258 par les provisions d'Oxford. Le mot utilisé Parliament en anglais vient évidemment du français, langue parlée par l'aristocratie anglo-normande et angevine au XIIIe siècle. Mais l'évolution est différente de celle de la France. Au XIVe siècle, le rôle judiciaire disparaît progressivement. Le rôle de contrôle financier augmente au contraire dans des proportions considérables. Voyons ensuite le cas de la Castille. Le mot utilisé en Castille, c'est le mot cortes. Curia plena en latin, corte complida en espagnol, c'est-à-dire curia élargie. À partir du milieu du XIIIe siècle, on emploie le pluriel cortes, les cours mot à mot. Sans doute à cause des convocations épisodiques au XIIIe siècle. Les fonctions sont celles de conseil au roi, de pétition, de consentement à l'impôt, c'est-à-dire des fonctions politiques et non judiciaires. Le modèle castillan se retrouve à peu près dans les autres royaumes ibériques, Aragon et Portugal. Signalons quelques autres cas. Celui du royaume angevin de Naples, où un parlement se réunit régulièrement. Mais il n'a pas grand pouvoir en matière fiscale. Et le cas du royaume de Sicile, du royaume aragonais de Sicile, avec un parlement réuni également régulièrement. Ensuite, voyons quelle est la composition de ces assemblées. Les assemblées ont donc toutes plus ou moins une origine commune, cela rejaillit sur leur composition. Étant issues de l'entourage royal, elles sont naturellement composées d'abord par des aristocrates. Mais presque partout, leur sont adjoints, selon des modalités diverses, des représentants des autres ordres, et en particulier de ceux qui doivent verser eux-mêmes l'impôt. Voyons le cas anglais. Au XIIIe siècle, le Parlement reste avant tout l'assemblée des barons laïcs et des prélats, les lords. Cependant, dès Henri III, sont élus deux chevaliers par comté et par bourg, et dans les bourgs, ce sont souvent des bourgeois. En 1322, les communes sont officiellement considérées comme une assemblée adjointe à celle des lords. C'est donc déjà un système à deux assemblées. Dans le cas français, le Parlement, nous le savons, est une assemblée de spécialistes. Mais il évoluera vers la formation d'une caste cohérente de juristes et jouira d'une grande indépendance vis-à-vis du roi. Quant aux États, il faut distinguer trois États, la noblesse, le clergé et celui qu'on appellera plus tard le tiers, autrement dit à cette époque, les représentants des autorités urbaines. Le cas ibérique est quasiment semblable. En Castille, on note l'apparition pour les Cortés de l'expression « los tres estados », les trois États, sans doute empruntés à la France. Les Cortés comprennent la haute noblesse, les grands, ensuite les évêques, les maîtres des ordres militaires, et enfin les représentants des villes que les Espagnols appellent « procuradores », des consejos, c'est-à-dire en français procurateur des conseils. L'origine commune des assemblées correspondait aux besoins nouveaux éprouvés par les monarchies du XIVe siècle, sans compter les influences réciproques, évidentes par exemple dans la péninsule ibérique. À travers les diversités locales, il est donc naturel de trouver bien des points communs entre les assemblées des divers pays. Et tout d'abord, ces assemblées, issues de la Curia Regis, apparaissent comme des rouages du pouvoir monarchique. Deuxième partie, donc, les assemblées au service du roi. Le roi a besoin des assemblées pour le relayer dans des tâches qu'il ne peut plus exercer personnellement. Il s'agit essentiellement de fonctions judiciaires et financières. Premier point donc, les fonctions judiciaires. Le roi demeure, dans toutes les monarchies, la source de la justice. Mais l'image du roi justicier exerçant personnellement la justice, voyez par exemple Saint-Louis, ne correspond plus à la réalité. Depuis l'origine, le roi a dû déléguer ses pouvoirs judiciaires sur le plan local, sans compter les justices seigneuriales. En France, cette justice est rendue notamment par les baillis et sénéchaux, qui représentent le roi sur le plan local, du moins dans le domaine royal. En Angleterre, ce rôle est dévolu au départ aux shérifs des comtés, mais les compétences du shérif se réduisent dès avant le XIVe siècle. Ce sont donc des juges itinérants qui font des tournées du banc du roi. En Castille, à la base, nous avons des juges et des alcades, sous le contrôle des mérinos, qui sont l'équivalent des baillis et des shérifs, et à un niveau supérieur, des adelantados, ou gouverneurs, ils sont 6 pour l'ensemble du royaume. Mais les causes en appel ne cessent de remonter jusqu'au roi, d'où le recours à un personnel spécialisé. Il faut distinguer plusieurs cas là encore. Voyons le cas du Parlement français. Il est constitué par des gens nommés par le roi. Longtemps, ces gens sont sans compétence. Mais le Parlement est organisé à partir de Philippe le Bel et en particulier par la Grande Ordonnance de 1345. Il y a alors une grande chambre comprenant 30 à 40 conseillers, des clercs, des nobles et des juristes professionnels, une chambre des enquêtes d'à peu près 40 membres qui prépare les arrêts, enfin une chambre des requêtes dont les conseillers sont moins nombreux, à peu près 8, qui entendent les requêtes, souvent en accord avec les maîtres des requêtes de l'hôtel du roi. Le Parlement subit les conséquences des crises politiques qui marqueront l'histoire de la France au XIVe et au XVe siècle. Cependant, malgré ces soubresauts, les conseillers font carrière au Parlement. Ils sont quasiment inamovibles et on aboutit à la création d'un corps spécialisé. C'est l'origine de la noblesse de robe. Voyons maintenant le cas du Parlement anglais qui est tout à fait différent. Malgré l'appellation commune, le Parlement anglais n'a plus grand-chose à voir avec le Parlement français. Au début du XIVe, il exerce encore un rôle judiciaire, mais à partir de 1330, il décline. On peut dire qu'en 1370, il a pratiquement disparu. Cependant, les lords continue à juger les hauts personnages. Le cas de la Castille, dans le cours du XIVe siècle, il y a une modification de la structure des Cortes. C'est la création à la Corte, à la Cour, d'un tribunal formé de spécialistes. Et aussi la nette distinction avec le Conseil du Roi et les Cortes qui se chargent des fonctions financières et politiques. Le cas français semble donc assez original, et la plupart du temps, les fonctions judiciaires n'ont pas été confiées à des assemblées. En revanche, partout, les assemblées ont joué un rôle important sur le plan financier. Deuxième point donc, les fonctions financières. Les besoins financiers des monarchies européennes vont croissant au XIVe et au XVe siècle, car partout règne la guerre qui coûte de plus en plus cher. Les ressources ordinaires des rois ne suffisent plus. Malgré l'adage, le roi doit vivre du sien. Pour faire admettre l'impôt, il faut obtenir le consentement des contribuables. Les rois ont donc besoin d'assemblées qui pourront donner l'impression que la décision a été prise après consultation de la population. Commençons par le cas français. Depuis le XIIIe siècle, le roi réunit souvent des assemblées sur le plan local, dont nous avons déjà parlé, avec des représentants de la noblesse, du clergé et des villes, les trois états, d'où le nom d'état, donné à de telles réunions. L'objet principal de ces réunions est d'obtenir le consentement à l'impôt. Trois types d'impôts à la fin du Moyen-Âge. Premièrement, la taille ou fouage, qui est un impôt de répartition par feu. Deuxièmement, les aides, surtout les aides sur le fait de la guerre, et qui sont des taxes indirectes sur les objets de consommation. Et enfin, les aides sur le sel, qu'on appelle la gabelle, qui vont se mettre en place dans le cours du XIVe siècle. Il arrive au roi, ou à ceux qui le représentent, de réunir les états de Languedoc et les états de Languedoc, mais toujours séparément. Voyons le cas anglais. Sous le règne d'Édouard Ier, 1272-1307, c'est la guerre contre l'Écosse, puis la guerre de Guyenne avec la France. Il est admis que le roi peut demander l'aide de ses sujets. Le Parlement discute alors le montant et la répartition de l'impôt. Il y aura d'ailleurs des parlements difficiles en 1297, 98, 1300. Le roi doit admettre un débat sur la nécessité de l'impôt. Sous le règne d'Édouard II, 1307-1327, la crise va s'aggraver. En 1311, le Parlement vote les subsides en échange d'une ordonnance de réforme. Et en 1322, c'est le Parlement d'York où le roi doit reconnaître les communes. Enfin, sous le règne d'Édouard III, 1327-1377, le roi tente de se passer de Parlement au début et il fait appel aux banquiers italiens. Mais la crise éclate. Entre 1337 et 1341, le roi doit se résoudre à solliciter à nouveau le Parlement. Et il doit reconnaître qu'il ne peut lever de taxes sans le consentement des lords, accompagné d'une délibération des communes. Précision importante pour l'Angleterre, seules les taxes directes sont du ressort du Parlement. Le roi peut créer et percevoir seules les taxes indirectes. Voyons le cas des royaumes ibériques. Les Cortés ibériques tirent leurs origines des besoins financiers. Les premières ressources des royaumes sont issues de la Reconquista, le butin, les tribus, mais à partir de l'invasion almoravide 1086, le roi demande une aide, pedido en espagnol, et un servicio. Cet impôt doit être consenti. Au XIVe siècle, Castille, les rois attendent des Cortés une aide financière en fonction de l'état du royaume, mais principalement en cas de guerre. Au Portugal, au XIVe siècle également, on assiste à des réunions irrégulières des Cortés. Les problèmes fiscaux sont leur unique domaine de compétence. Partout en Occident donc, les assemblées ont été utilisées par les rois pour obtenir le consentement d'un impôt toujours très impopulaire, Cependant, parfois, les assemblées vont prendre conscience de leur pouvoir et vont être tentées de s'opposer au roi. C'est ce que nous allons voir dans la troisième partie, le contre-pouvoir des assemblées. Les représentants de la population se rendent compte que le roi a besoin d'eux, qu'il ne peut plus gouverner seul. Ils vont donc tenter de mettre en pratique des idées qui sont avancées par certains penseurs politiques. Par exemple, Marsile de Padoue, dans son Défenseur Passis, en 1324. Pour lui, la source de la souveraineté, c'est le peuple. Le concile est l'organe chargé de le représenter. En fait, là aussi, les modalités sont différentes selon les États. Voyons le cas français, le cas des États français, autrement dit des États généraux. Le roi de France n'a guère convoqué ces États que dans les périodes de crise. Par exemple, en ce qui concerne Philippe le Bel, au début du XIVe siècle, il a utilisé les États lors des grandes affaires qui ont marqué son règne. Par exemple, lors du différend avec le pape Boniface VIII, le 10 avril 1302, se tient une assemblée à Notre-Dame de Paris, avec le prélat, les docteurs, des barons, des représentants des chapitres des villes, à peu près 1000 personnes. Il s'agit de soutenir le roi contre le pape. De même, lors de l'affaire des Templiers, le 25 mars 1308, une assemblée représentative se réunit à Tours. Elle consent à la politique royale de condamnation des Templiers. Elle permet de faire pression sur le pape Clément V. Cependant, la plupart du temps, les rois ont convoqué les États dans des périodes difficiles quand ils avaient un besoin d'argent important. Ce sera vrai surtout à partir du milieu du XIVe siècle. Citons simplement les États de 1355-1358 qui se révolteront contre le dauphin futur Charles V, puis les États réunis en 1380 lors de la minorité de Charles VI, et enfin les États de 1413 lors de la crise cabochienne. Voyons maintenant le cas du Parlement anglais. Il y a donc en Angleterre deux assemblées permanentes. En 1322, de par les statuts d'York. À partir de 1341, le Parlement joue un rôle important. Cependant, ce sont les lords qui prédominent. Le Parlement consent à l'impôt, approuve les ordonnances royales, promulgue les statuts, demande des réformes administratives. Le plus souvent, il y a pétition des communes et délibération des lords. Les réunions du Parlement ont lieu au moins une fois par an. Il s'agit donc d'un véritable pouvoir politique exercé par ces assemblées. Ces assemblées contrôlent d'une certaine façon le pouvoir royal. Conclusion. Les royaumes de la fin du Moyen-Âge deviennent des monarchies de plus en plus complexes. Les assemblées répondent pour une part aux besoins nouveaux de la monarchie. Les assemblées sont aussi un relais nécessaire entre le roi et son peuple, notamment en ce qui concerne le consentement à l'impôt. Cependant, les assemblées peuvent se retourner contre le pouvoir royal et constituer un véritable contre-pouvoir à l'origine d'une monarchie contrôlée. C'est notamment le cas dans le royaume d'Angleterre.